France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on s'intéressera tout d'abord à la situation en Iran, un mois tout juste après le début des manifestations réprimées dans le sang. Washington affirme que Téhéran rechercherait le dialogue tout en laissant planer la menace d'une action militaire. Aucune grande puissance n'a subi autant de pertes humaines dans aucun conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon une étude publiée ce matin, la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie aurait fait au total près de 2 millions de victimes militaires. Avec notre invité, on parlera aujourd'hui de la crise au Groenland. On tâchera par ailleurs de déchiffrer ce qui se cache véritablement derrière les mauvais résultats annoncés par le géant du luxe, LVMH. À suivre également un rare exemple d'unité nationale en France, la pérennisation du dispositif territoire zéro chômeur. Enfin, on s'intéressera à un match à distance en prévision de la présidentielle de 2027. C'était il y a un mois en Iran, naissait le fragile espoir que la ferveur populaire fasse trembler l'impitoyable régime théocratique de la République des Mollahs. Or, depuis quelques semaines déjà, partout dans la rue, les aspirations de la population ont cédé la place à la peur, peur d'être traqué, arrêté, tué ou exécuté. Et de fait, les dernières estimations de la répression orchestrée par les gardiens de la Révolution sont terrifiantes et même suffocantes, basées sur des sources locales. Celles-ci estiment que jusqu'à 36 000 personnes auraient péri en seulement 48 heures, les 8 et 9 janvier dernier. Même si ces chiffres restent à confirmer, ils confèrent un ordre de grandeur de la violence subie lors de ces journées, probablement parmi les plus sanglantes de l'histoire contemporaine des soulèvements en Iran. Et forcément, dans ces conditions, tous ceux qui ont survécu au bal, mais dont le corps reste criblé de larmes, s'interrogent sur la prochaine étape que leur réservera le pouvoir en place. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Hier, les États-Unis ont affirmé que Téhéran recherchait le dialogue. Les Iraniens veulent passer un accord, a même assuré Donald Trump, le président américain, qui dans le même temps, Christian, continue malgré tout à laisser planer la menace d'une action militaire.
Oui, n'exclure aucun scénario, aucune option. Donald Trump veut avoir toutes les cartes en main avant de décider de frapper l'Iran ou pas. Le dispositif militaire américain dans le Golfe Persique se met progressivement en place. Le porte-avions USS Abraham Lincoln et son escorte, composée d'au moins 3 destroyers équipés de missiles de croisière Tomahawk, sont désormais sur zone. Une armada navale qui vient compléter la 5e flotte américaine stationnée à Bahreïn et la base aérienne d'El Udeid au Qatar. Mais tout en montrant ses muscles, Trump ne semble pas fermer la porte à la négociation avec les Iraniens. Un diplomate arabe nous a confié que des discussions étaient en cours entre Américains et Iraniens sur le dossier du nucléaire. Sans en dire plus, le président américain s'interroge encore sans doute sur les effets d'une campagne de bombardement, alors que les pays de la région redoutent les conséquences d'un scénario guerrier. La Turquie lui conseille de négocier plutôt que de frapper, tandis que l'Arabie saoudite a décidé de ne pas autoriser des opérations militaires américaines contre l'Iran depuis son territoire. En tout cas, on sait que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a le numéro personnel de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et que les deux hommes communiquent via le réseau WhatsApp.
Merci à Christian Chéneau. J'ajoute que ce matin, le chef de la diplomatie iranienne déclare que les États-Unis doivent cesser les menaces s'ils veulent négocier.
En Ukraine, l'armée du Kremlin poursuit sans relâche ses bombardements.
Hier, les frappes de l'envahisseur ont fait 12 morts et 3 personnes ont encore été tuées la nuit dernière, et sans perspective de paix ni même de trêve, la guerre s'apprête à entrer inéluctablement le mois prochain dans sa 5e année. Alors même en l'absence de chiffres officiels, on savait que ce conflit était d'ores et déjà le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors voilà que ce matin, un think tank américain avance une estimation du lourd tribut payé par les combattants des deux côtés de la ligne de front. Au total, Nathanaël Charbonnier, près de 2 millions de soldats seraient morts, blessés ou disparus entre février 2022 et décembre 2025.
Ce chiffre de 2 millions qui marque les esprits est toutefois à prendre avec prudence, car chaque camp a intérêt à sous-estimer ses bilans. On peut ajouter que le chiffre comptabilise à la fois les morts, les blessés et les disparus. Cela dit, le cercle de réflexion américain estime que Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 325 000 morts sur un total estimé à 1,2 million de victimes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de 4 ans. Kiev a également subi des pertes importantes. Le conflit a causé entre 500 000 et 600 000 victimes, parmi lesquelles 100 000 à 140 000 morts entre février 2022 et décembre 2025. 2 millions de victimes militaires, mais il ne faut pas oublier les civils. Et là, c'est l'Ukraine qui est le pays le plus touché. Selon un rapport de la mission de surveillance des droits humains de l'ONU, l'année 2025 a été la plus meurtrière depuis la première année de l'invasion russe en 2022, avec plus de 2500 civils tués. Au total, depuis le début de la guerre, on comptabilise 15 000 civils ukrainiens tués et 40 000 blessés. Mais là encore, le nombre réel de victimes est probablement considérablement plus élevé.
La Russie commencerait-elle à plier bagages dans le nord-est de la Syrie ?
C'est du moins ce que laisse entendre un début de retrait progressif de ses forces de la principale ville du territoire qui récemment encore a été contrôlée par les Kurdes, d'une manœuvre militaire qui coïncide avec la visite aujourd'hui même à Moscou du président syrien par intérim Ahmed al-Shara, attendu pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Preuve que le nouvel homme fort de Damas cherche désormais à bâtir un système de partenariat multiple en courtisant tout à la fois la Russie mais aussi les capitales arabes du Golfe, la Turquie ou bien encore l'Union européenne comme les États-Unis. C'était la semaine dernière, Donald Trump, adepte des volte-face spectaculaires, évoquait un nouvel accord avec les Européens sur la question du Groenland, incluant notamment des modifications majeures concernant le statut militaire de l'île. Des concessions qu'il lui aurait été sans doute facile d'obtenir sans faire montre de cette arrogance déconcertante qui le caractérise, sauf que la crise autour de la souveraineté comme de l'intégrité du territoire autonome étant devenue le symptôme le plus manifeste aujourd'hui d'une relation transatlantique durablement transformée par l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche, la prudence reste toujours de mise. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a prévu de recevoir aujourd'hui le Premier ministre du Groenland et la Première ministre du Danemark pour un déjeuner de travail destiné à réaffirmer le soutien de la France et au-delà la solidarité européenne. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Mika Blujon-Mérel, chercheur senior en géopolitique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Cette image de solidarité européenne a quelque chose d'étonnant si l'on considère le fait que le Groenland revendique en réalité toujours son indépendance vis-à-vis du Danemark. Comment est-ce que vous interprétez cette mini-tournée des deux premiers ministres, donc reçus conjointement à l'international, hier à Berlin, aujourd'hui à Paris ?
Mais dans les deux cas, que ce soit dans le cas du Groenland ou dans le cas du Danemark, les deux gouvernements ont besoin de l'appui des Européens, ont besoin d'une espèce de coalition des volontaires, histoire de reprendre le terme qui est utilisé pour l'Ukraine, dans la défense du Groenland. Et c'est une défense qui est tous azimuts, c'est une défense qui est à la fois diplomatique, c'est une défense qui est à la fois économique, et c'est évidemment une défense qui est aussi militaire, comme on l'a vu dans le cadre de l'exercice Endurance Arctique, qui a commencé le 6 janvier et qui va se poursuivre, ça a été annoncé par l'armée danoise, tout au long de l'année.
En mars de l'année dernière, la percée du parti le plus indépendantiste aux élections législatives groenlandaises avait été perçue comme le signe de la montée en force du sentiment anti-danois au Groenland et donc aussi comme la manifestation possible de clivage qui pourrait bénéficier aux vues des États-Unis sur ce territoire. Comment est-ce que les différents partis politiques de l'île ont réagi depuis les menaces de Donald Trump ? Est-ce qu'ils se sont rapprochés ?
Alors c'est une perception qui n'est pas tout à fait exacte. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu sur les différents partis groenlandais, donc on va dire qu'il y en a quatre majeurs. Vous avez un indépendantiste radical, le parti Naleraq. Vous avez le parti démocratique du premier ministre actuel, Jens Frederik Nielsen, qui est modéré. Donc c'est-à-dire qui dit qu'il faut qu'il y ait eu d'indépendance, mais c'est une indépendance de très long terme quand toutes les conditions économiques et politiques seront adéquates. Donc pour le coup, ils ne disent pas qu'il faut une indépendance dans les 20 prochaines années. Et vous avez deux partis intermédiaires, Inuit Ataqatigiit et Siumut, qui eux sont un petit peu entre les deux. Et donc, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il y a eu une prime à la polarisation. C'est-à-dire qu'à la fois, les indépendantistes radicaux de Naleraq ont eu une prime avec un survote par rapport à d'habitude, et de l'autre côté, les modérés, donc pour cette indépendance de très long terme, ont eu eux aussi une prime. Et les deux partis, un petit peu entre les deux, dans l'espèce de ventre mou, qui dirigeaient depuis plus de 20 ans la politique groenlandaise et qui s'alternaient l'un à l'autre, eh bien, de fait, eux ont perdu. Donc, si vous voulez, c'est pas tant une question d'un sentiment anti-danois et de cette émergence ou d'une résurgence qui a expliqué les élections de mars 2025, c'est plus une polarisation du champ politique des deux côtés, côté indépendantisme ou côté modération, et avec les deux ventres mous qui font partie également de la coalition gouvernementale actuelle.
Et est-ce que l'exacerbation de ces tensions autour du Groenland a aussi des répercussions sur la scène politique danoise cette fois-ci ?
Alors oui et non, parce que typiquement donc au Danemark, vous avez un peu comme ce qu'on a en France, hein, vous avez deux députés au Parlement danois qui sont élus par les Groenlandais et qui donc représentent le Groenland. Et parmi ces deux députés, il y a justement une députée du parti particulièrement donc indépendantiste, le parti Naleraq, qui justement utilise son poste de député au Parlement danois pour finalement expliquer que le véritable enjeu de la crise qu'on est en train de voir maintenant, c'est l'indépendance du Groenland. Et que justement, la crise qu'on est en train de voir au Groenland en ce moment, elle interroge, selon elle, les relations avec le Danemark au point que ça pose la question de savoir est-ce que le Danemark ne pourrait pas laisser le Groenland devenir indépendant et lui permettre, tout en étant indépendant, de pouvoir tout simplement mener sa politique étrangère de concert avec le Danemark. Donc justement, on voit des partis qui d'un côté disent il faut maintenir le plus possible cette union avec le Danemark, en tout cas d'un point de vue du court terme ou du moyen terme, pour passer cette crise et en sortir plus fort avec l'Europe, avec le Danemark, avec l'OTAN, et de l'autre côté, des partis indépendantistes ou certaines personnalités très influentes au Groenland et de plus en plus influentes au Danemark, qui disent ben, justement, au contraire, c'est le moment de questionner la question donc de l'indépendance.
Effectivement, les dirigeants des cinq principaux partis groenlandais ont réaffirmé récemment qu'ils ne voulaient être ni américains ni danois. Est-ce que cela ne met pas en cause justement la perspective d'une indépendance pleine et entière pour le Groenland ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que ces cinq partis, ce qu'ils ont fait par cette déclaration, donc la déclaration des cinq chefs de parti d'il y a une dizaine de jours, elle consiste à envoyer d'abord et avant tout un message d'une part positif vis-à-vis des partenaires européens, y compris le Danemark, et de l'autre côté un message relativement clair vis-à-vis des États-Unis, disant nous ne voulons pas faire partie de ce 51e État que vous appelez de vos voeux. Et dans ce contexte-là, ce que les Groenlandais ont voulu, les chefs de parti, les cinq, c'est-à-dire même les partis unionistes d'un côté ou les partis très indépendantistes de l'autre, ce qu'ils ont voulu signifier, c'est le fait que là, actuellement, dans cette crise, ils sont unis et ce n'est pas parce qu'ils sont dans la coalition gouvernementale ou dans l'opposition, qu'ils sont plus ou moins radicalement indépendantistes, que fondamentalement, ce n'est pas là, ici, la question de l'identité groenlandaise qui est posée. Et dans le cas de cette identité groenlandaise, eh bien, de fait, la défense de cette identité oblige tout le monde à se serrer les coudes, majorité ou opposition, et à répondre d'une seule voix à Donald Trump. Mais aussi, c'est un message de rassurance, et je vais m'arrêter là, rassurez-vous, auprès de la population groenlandaise, puisque la détresse mentale d'une partie de la population groenlandaise, notamment les plus jeunes et les plus aînés, de fait, est absolument manifeste. Et ces cinq chefs de parti voient bien, à travers l'ensemble du pays, et en particulier dans les petits villages, qu'il faut afficher une forme d'unité, parce que là, il y a un enjeu de santé mentale pour les Groenlandais et de soutien à la communauté qui dépasse tout, y compris cette question d'indépendance ou les enjeux de politique publique.
Merci Mika Blujon-Mérette, donc chercheur senior en géopolitique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Avant de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine, laquelle devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés au grand désarroi de Donald Trump, la bourse de Paris cédait du terrain ce matin, plombée notamment par la publication la veille des résultats annuels du numéro 1 mondial du luxe LVMH, le mastodonte, première capitalisation boursière française, a vu son bénéfice net baisser de 13% en 2025. Son chiffre d'affaires a lui reculé de 5%. Alors le groupe explique avoir été clairement affecté par la guerre commerciale avec les États-Unis, justement. Pour autant, et même s'il prévoit déjà que 2026 ne sera pas simple non plus, le géant du luxe Marie Viennot reste encore très solide financièrement.
Des nombreuses activités de LVMH, c'est celle des vins et spiritueux qui accuse la plus grosse chute de son chiffre d'affaires, moins 9%. Sans surprise, c'est la filière cognac qui perd le plus de ventes, victime directe des droits de douane américains et des mesures de rétorsion chinoises. De façon plus structurelle, c'est aussi parce que la consommation d'alcool diminue. Les divisions mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques sont également en baisse. En revanche, cela va très bien pour les montres et les magasins que possède LVMH comme Le Bon Marché et Sephora. Il faut d'ailleurs relativiser cette baisse du chiffre d'affaires global de 5% en 2025, car les années précédentes avaient été exceptionnelles. En 2022, le chiffre d'affaires de l'empire créé par Bernard Arnault avait augmenté de 22%. Alors même si l'action de LVMH est chahutée aujourd'hui en bourse et que son bénéfice chute de 13%, les actionnaires toucheront le même dividende dividendes que l'an dernier. Avec 10 milliards d'euros de profit, cela reste un groupe très rentable. Côté impôts, LVMH en a versé 4 milliards 900 millions d'euros en 2025, dont 660 millions d'euros de surtaxe sur les bénéfices. Cette surtaxe qui va être reconduite en 2026. Sur ces quasi 5 milliards d'impôts, le groupe indique en verser la moitié à l'État français où se trouve son siège social. Pour ses ventes, la France ne pèse que 8% quand les États-Unis représentent 26%, 26% également l'Asie. Voilà pourquoi le groupe est si exposé aux tensions géopolitiques.
En ces temps troublés de la vie parlementaire, c'est un rare exemple de cohésion nationale. Hier soir, les députés ont approuvé en première lecture et à l'unanimité la pérennisation d'un dispositif baptisé « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette expérimentation qui repose sur l'idée qu'au fond personne n'est inemployable ne date pas d'hier. Elle a été mise en place en 2016, prolongée en 2020. Et elle devait en principe prendre fin le 30 juin. Or, un amendement retenu dans le cadre de la discussion budgétaire devrait permettre Wafia de la reconduire jusqu'à la fin de l'année.
Oui, tout à fait. Une décision saluée par Stéphane Viry, le député Liot des Vosges, qui a déposé cette proposition à l'Assemblée pour que cette expérimentation, qui dure depuis 10 ans, vous l'avez dit, bénéficie à tout le monde. Il fallait donc la pérenniser.
Ça permet d'une part de donner beaucoup de quiétude aux 83 territoires et aux milliers de salariés concernés qui auraient pu perdre leur boulot, qui auraient pu voir réduit à néant tous ces efforts de construction. C'est quelque chose qui fonctionne, qui a été évalué, dont les bienfaits sont avérés, et probablement parce que Territoire Zéro Chômeur reste une aventure territoriale et humaine, peut-être que en France, d'autres territoires vont vouloir être candidats.
Les élus locaux très actifs dans ce dispositif craignent d'avoir à supporter son élargissement. Le député les rassure.
C'est du financement national, parce que c'est de la dépense sociale qui est déjà engagée, qui ne sera plus consacrée à payer une personne pour rester chez elle, puisqu'on prend la somme d'argent qui était donc dévolue à cette personne depuis souvent de nombreux mois, pour créer en concurrence un poste de travail pour lui permettre de retrouver donc une activité professionnelle.
Territoire Zéro Chômeur restera donc financé par l'État et non par les collectivités territoriales. Après d'âpres discussions avec le gouvernement, précise le député, avec 4000 emplois actuellement, le dispositif est évalué pour le moment à 60 millions par an.
Merci Wafia Kenich.
Après une semaine de débats chaotiques, les sénateurs seront appelés à se prononcer aujourd'hui sur deux propositions de loi.
Oui, l'une plutôt consensuelle visant à renforcer l'offre de soins palliatifs sur le territoire et l'autre beaucoup plus irritante puisqu'elle traite de suicide assisté et d'euthanasie. Deux évolutions jugées en l'occurrence inacceptables par l'aile la plus conservatrice de la droite et des centristes à la Chambre haute. Ce qui signifie que les députés devraient sans doute obtenir le dernier mot sur cette réforme sociétale majeure promise par le chef de l'État.
Enfin, c'est un match à distance que se livrent aujourd'hui deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron.
D'un côté, Gabriel Attal, pas officiellement en lice pour 2027, organisait hier soir sa nuit de la Nouvelle République à Paris. 6 heures de débats et d'échanges résolument tournés vers la prochaine présidentielle. Et puis de l'autre côté, Édouard Philippe, candidat, lui, déclaré à cette future échéance et qui lancera ce soir sa campagne pour les municipales au Havre, même si, là encore, Rosalie Lafarge, c'est bien sa présidentialité qui sera en jeu.
Édouard Philippe lui-même lie son destin national à son destin local. Si j'échouais à convaincre les Havrais, je ne serais pas dans une bonne position pour convaincre les Français, a-t-il concédé le mois dernier. Rater la marche du Havre, c'est donc tirer un trait sur l'Élysée pour le premier ministre d'Emmanuel Macron, pourtant lancé dans la course présidentielle depuis près d'un an et demi. Et ses récentes prises de position, elles sont liées à ces deux campagnes menées de front. À travers ses multiples tentatives pour se démarquer d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe adresse un message aux Havrais autant qu'aux Français. Parce que si la dynamique s'essouffle dans les sondages, en tout cas au niveau national, rien n'est plié non plus dans la ville qu'il a largement réélue en 2020. Édouard Philippe y retrouve son adversaire d'il y a 6 ans, le député communiste Jean-Paul Lecoq. Mais cette fois-ci, celui-ci se présente comme le candidat de la gauche unie, hors LFI. Renforcé dès le premier tour par le Parti Socialiste, les écologistes, Génération et l'Après, le parlementaire imagine rendre à la gauche les clés de la ville dirigée depuis 30 ans par la droite. Et l'un des arguments qu'il met en avant, c'est la volonté des habitants d'avoir un maire présent à 100%. Dans ce duel, un troisième homme compte bien jouer les troubles faits. Le conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, Franck Keller, mène une liste RN-UDR et ne désespère pas d'imposer au second tour une triangulaire. En jouant sur les deux tableaux, Édouard Philippe sait qu'il peut tout perdre, mais une victoire à domicile peut aussi le relancer dans la course à l'Élysée. Persuadé que l'élection présidentielle commencera le jour d'après ces municipales, il a prévu de longue date de dévoiler son programme national à l'issue du scrutin local.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le retour du soleil à l'ouest et au sud. En revanche, le nord et l'est devraient garder un ciel couvert avec quelques averses possibles. Deux départements, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, sont d'ailleurs placés en vigilance orange pour risque de crue. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malraï. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.